cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 12 février 1992.
L'intelligence et la volonté humaine peuvent-elles être altérées dans leur exercice, dans le contexte psychologique et imaginatif? Je te crois. Je comprends que s'altérer constamment, peuvent-ils être endommagés en eux-mêmes ou détruits en eux-mêmes? Non, pas dans leur capacité d'être, c'est-à-dire dans leur entité propre de faculté. Mais attention, hein, comprenons bien ce que ça veut dire. Si leur exercice est diminué, c'est dans ce sens-là que certains disent, par exemple, qu'il est quasi impossible de faire une philosophie première dans un contexte comme le nôtre. Et je crois que c'est en partie vrai. Est-ce que la métaphysique, la philosophie première, aurait pu naître en dehors d'un contexte de tradition religieuse? En dehors d'un contexte de tradition judéo-chrétienne? Un Thomas d'Aquin. Mais la théologie aujourd'hui, comme c'est difficile. Parce que tout le temps, lutter contre les poussées de psychologisme, de freudisme, d'idéologie athée, de positivisme. À la fin, on se fatigue. C'est impossible autrement. Alors, à la place d'avoir son énergie capable de contempler, on lutte tout le temps. C'est une tactique du démon, ça. On ne peut pas nier. Et d'autre part, c'est très vrai qu'en luttant, on se fortifie. Et que certaines choses ne peuvent être dévoilées que dans certaines situations limites. Ce que je crois. Je crois que la situation limite d'aujourd'hui, dans laquelle on se trouve au point de vue humain, nous oblige d'aller très loin. Et fait que le Saint-Père, alors point de vue chrétien, ne cesse de rappeler l'exigence du renouveau. C'est sûr. Ce que Heidegger dit au point de vue philosophique purement, que la métaphysique occidentale est descendue si bas, elle est terminée. Il faut l'ontologie fondamentale. Et elle ne peut naître que grâce à cette situation limite devant laquelle on se trouve. Ce qui est en partie vrai. Mais la guerre est le père de toute chose, Héraclite. C'est très vrai que dans certaines situations limites, on est obligé de réagir beaucoup plus fortement que dans une situation paisible où tout va bien, où on risque un peu de s'endormir. Mais le défaut dominant des moines aujourd'hui, c'est pas la paresse. Je crois pas. Tandis qu'à une époque où tout allait bien, ils avaient des richesses, ils étaient les seigneurs du pays, tout allait bien. Le grand danger, c'était de dormir, de s'endormir. Aujourd'hui, il n'y a pas grand danger. Hein. C'est pas une sinécure et une situation d'être moine. Je crois pas. Alors, ça exige de regarder davantage la finalité. Donc, peuvent-ils être endommagés en eux-mêmes ou détruits en eux-mêmes? Non, jamais. mais le poids du contexte psychologique et imaginatif peut être tel qu'on a une peine énorme d'allumer les petites lampes. Vous savez bien, quand il y a trop de courant d'air, regardez dans la procession, quand il y a trop de courant d'air, ça me donne une image, moi, toujours merveilleuse de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Au feu nouveau dans la semaine sainte, du jeudi saint, on allume. Puis, quand il y a beaucoup de vent, au bout de 2 minutes, tout est éteint. On rallume. Tout est éteint. On a beau mettre ses mains au-dessus, ça ne fait rien du tout. Parce qu'on doit avancer, évidemment, si on s'immobilisait, on était dans un trou. Alors à ce moment-là, on pourrait garder sa lampe allumée. C'est une image que constamment, constamment, tous nos efforts sont annihilés. Et on doit tout le temps tout recommencer. C'est magnifique pour le Seigneur, parce que ça montre qu'on y tient, on y tient, on y tient. Mais c'est rude, c'est pas des situations confortables. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de situations confortables au niveau monastique. Je crois pas. Et ça, c'est rude, parce que au fond, on souhaite une situation confortable dans le fond de nous-mêmes. Un peu de stabilité. Enfin, le paradis terrestre. Pff, là, 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 là. Comme on le souhaite. Eh bien, non. Alors, vous voyez, c'est que cet environnement si fort dans lequel on est fait que, comme pour la ville de Mexico, on ne voit plus les volcans qui l'entourent, les 7 volcans qui l'entourent. Tout est complètement enténébré. Qu'est-ce qui permet de le redécouvrir? Alors, ce qui permet, chrétiennement, dira la grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Philosophiquement, on dira cet effort constant, parce qu'on sait que l'appétit naturel est plus fort que tout le conventionnel. On en est certain. On en a une certitude, le conventionnel est second et l'appétit naturel est premier. Et donc, si on fait attention, on est victorieux, humainement parlant. Évidemment, c'est pas commode, je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est fatigant. Alors quand c'est fatigant, au bout d'un certain temps, quand même, on aime mieux être à l'infirmerie. Là, moi, je pourrais me reposer toute la journée. Personne viendra me déranger. Alors, il y a des infirmeries comme ça qu'on se crée psychologiquement. Des petites infirmeries, intellectuellement. Bon. Alors continuons cet effort que nous faisons au milieu de ce contexte dans lequel on est. Vous voyez, parler d'une éthique religieuse aujourd'hui, parler d'une éthique chrétienne aujourd'hui, et ça ne se fait plus. Parler de l'âme spirituelle aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est plus sur le marché philosophique. Il faut que j'ai dit ça, conclu. Oui, exactement comme un produit pharmaceutique qui est périmé. Oh, il y a 50 ans, comprenez, mais depuis, on fait beaucoup mieux. Et c'est quelquefois ces vieux remèdes qui sont bien meilleurs qu'aujourd'hui. Ils sont moins falsifiés. Redécouvrir qu'on est intelligent, c'est quand même pas si mal. Redécouvrir qu'on a la capacité d'aimer, c'est quand même quelque chose. Et de ne pas être en dépendance de ce que représentent les courants d'idées d'aujourd'hui. C'est ça qu'on essaie de faire, voyez. Et c'est pour ça qu'on le fait dès le noviciat, parce qu'on considère que la pression est telle aujourd'hui que si on ne miracle extraordinaire de Dieu. Mais Dieu veut qu'on coopère. Et donc, la conversion de l'intelligence et la conversion du cœur. Alors, continuons. Comment l'adoration et la soif de contemplation en éthique religieuse a une influence sur l'exercice de l'amour d'amitié? Oui. L'adoration et la contemplation ne changent pas la spécification de l'amour d'amitié au plan humain. Mais permet d'avoir un sens de l'autre, de l'ami, beaucoup plus profond. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et je vais vous donner comme caractère particulier, c'est que grâce à l'adoration et la soif de contemplation, je peux acquérir cette petite vertu très cachée qui est la vertu d'humilité. Je crois, alors ça c'est la thèse, je crois que la vertu d'humilité ne peut éclore que dans une éthique religieuse. En dehors d'une éthique religieuse, c'est-à-dire une éthique commandée par l'amour d'amitié, je peux respecter l'autre. Le respecter vraiment comme autre. Le respect, la justice. Oui, ça oui. Je peux avoir vis-à-vis de lui des égards grâce à l'amour d'amitié, mais être toujours devant ses qualités, puisque le propre de l'amour d'amitié, c'est de mettre en pleine lumière les qualités de son ami. Et c'est par là que vous voyez qu'un amour d'amitié grandit. Quand c'est l'inverse, vous pouvez dire que l'amour d'amitié ne grandit pas. Plus j'avance, plus je vois que mon ami est plein de défauts. Quand vous faites cet aveu, ça prouve que votre amour d'amitié ne grandit pas beaucoup. Au début, j'étais complètement séduit. Je me dis, c'est l'âme sœur extraordinaire. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça dans toute ma vie. Extraordinaire. Une merveille. Alors pourvu que ça dure. Et ça ne dure pas. Je m'aperçois qu'il a des défauts. Et petit à petit même, ses défauts prennent le pas sur la séduction. Il n'y a plus de séduction du tout. C'était que des apparences. En réalité, il a un caractère de chien. Ça ne va pas du tout. Je continue de l'aimer puisque c'est mon ami. Mais, c'est pas commode. Je dois lutter tout le temps, tout le temps. Vous voyez, là on voit très bien que l'amour d'amitié ne grandit plus. Alors les défauts apparaissent. L'amour d'amitié, quand il grandit, au contraire, me fait découvrir de plus en plus toutes les qualités de l'ami. Et c'est à partir de là que l'exercice de l'amour d'amitié a une joie plus grande. Je sais plus, ça, mon ami m'apparaît de plus en plus. Une présence qui pour moi est bonne, agréable, détendante. Il y a quelque chose de très grand qui se fait. Au point de vue purement humain, je crois qu'il y a ce fait que je fais que l'ami passe toujours devant. Mais ce n'est pas, au sens strict, l'humilité. Ce sont des dispositions provenant de l'amour qui fait que je mets l'ami toujours en vedette et je le fais toujours passer devant. Mais je ne crois pas que c'est la véritable humilité. C'est très curieux. Il faut y réfléchir à ça. On a tous cette expérience. Est-ce que l'amour d'amitié comme tel va être capable d'engendrer la vertu d'humilité? Je crois que l'amour d'amitié comme tel est capable d'engendrer des dispositions à l'humilité. Alors, voyons bien la différence au point de vue éthique entre disposition et vertu. Pour saint Thomas et la vertu qui est un habitus. Donc la différence entre disposition et habitus. La disposition se prend ex parte materiae. Donc elle se prend du côté de la matière, de l'individu. La disposition se prend du côté de la matière d'individu. Ex parte materiae. Alors, tandis qu'au contraire, l'habitus se prend du côté des principes propres, donc de la fin, du bien. C'est pour ça que les dispositions ne sont pas stables, tandis que l'habitus est stable. Parce qu'il s'appuie sur un principe propre. Alors quand il s'agit de l'humilité, on a des dispositions à des actes humbles. Faire passer devant l'ami. Il me semble que c'est de l'ordre de la disposition par rapport à l'humilité. L'humilité fait qu'on laisse passer devant l'autre. Constamment. C'est ça le propre de l'humilité. On laisse passer l'autre devant. On s'efface devant. Et la vertu d'humilité consiste à découvrir dans l'autre ses qualités propres que moi je n'ai pas. Les qualités uniques. L'humilité, la vertu d'humilité, c'est au contraire c'est d'être en référence. L'orgueil, au contraire, c'est justement passer devant. Et l'autre, oui, il existe, mais qu'en fonction de nous. Oui, dans un langage mondain, on voit tout de suite cette grosse vanité et ce point de vue de l'orgueil. Ça se voit toujours. Lutter contre l'orgueil, c'est justement lutter pour acquérir l'humilité. Et la vertu d'humilité consiste à être heureux que l'autre que j'aime passe devant. On en est heureux. Alors, ça c'est la vertu, la disposition, c'est de sentir comment l'autre a quelque chose que je pourrais mettre en pleine lumière. Je le sens. C'est pas encore très explicite. C'est pas encore très dévoilé. Ça reste caché. Mais je le pressens. On pressent cette disposition de qualité souterraine qu'on pourrait mettre en pleine lumière. Et qu'on met pas entièrement en pleine lumière, mais par amour, on laisse l'autre passer devant. Et je crois, alors là, c'est délicat à préciser au point de vue philosophique, je crois que l'éthique humaine de l'amour d'amitié permet des actes d'humilité pour réaliser en moi une disposition à l'humilité, une réceptivité à l'égard de l'autre, disposition. Que seule l'éthique religieuse qui me permet de comprendre que chacun ayant une âme créée par Dieu directement, chacun a des qualités uniques que l'autre n'a pas. Et je peux alors m'appuyer sur cette affirmation et découvrir dans l'autre, mon ami, ses vraies qualités, ces qualités que Dieu regarde, qui sont ses qualités propres, par où, de fait, il passe devant. Et je les mets en pleine lumière, ça. Et là, je touche ce que c'est que la vertu d'humilité. Et cette vertu d'humilité, je l'acquiers grâce à l'adoration. L'adoration me rend humble. Puisque dans l'adoration, je laisse Dieu passer devant. Ce qui est facile, puisque c'est la vérité. Et j'aime que Dieu passe devant et que je disparaisse en face de Dieu. J'aime de jeter ma couronne et d'être dans cette nudité du pauvre et du mendiant en face de Dieu. C'est le propre de l'humilité, c'est le propre de l'adoration, ça. Et cette adoration crée en moi une vertu d'humilité en face de Dieu. Je suis le pauvre de Dieu qui reçoit tout de Dieu et qui aime d'être en face de Dieu comme le plus petit, le plus fragile, le plus pauvre. Donc, qui aime d'être humble en face de Dieu. Et cette humilité acquise en face de Dieu va avoir une répercussion sur le regard que j'ai vis-à-vis de ceux qui sont proches de moi. Et c'est en ce sens-là que la vertu d'humilité va pousser au plus intime de ma volonté à partir de l'adoration. Et grâce à l'adoration, plus que moi, en raison de l'amour de Dieu sur lui. Et c'est vrai, l'amour de Dieu sur chacun de ceux qui sont proches de moi fait que chacun de ceux-là passe devant moi. Parce que je reconnais que cet amour de Dieu pour lui est plus que tout le reste. Est plus grand que tout le reste. Et donc, c'est relativement facile de le laisser passer devant. Évidemment, s'il y a des plis très forts de tendance, d'orgueil, de vanité, ça exigera une lutte. La propension qu'il y a en moi d'orgueil, hein. Alors, au point de vue chrétien, je le dis tout de suite, on a une propension d'orgueil, c'est notre défaut dominant. Pas la peine de faire une retraite de 8 jours pour savoir le défaut dominant. Je vous le dis, votre défaut dominant à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, c'est l'orgueil. Pas drôle à savoir, mais c'est comme ça. On est dans la vérité quand on le reconnaît. Notre défaut dominant, hein, le plus foncier, le plus radical, c'est l'orgueil. C'est ce qu'on dit habituellement. Hein. Il mourra quelques heures après nous. Il y a des rebondissements d'orgueil, même après. Même le cadavre sera orgueilleux, hein, faisable. Parce qu'il sera le premier cadavre. T'as pas envie du tout de mourir, le vieil homme. Ça, c'est le défaut. On a une propension à l'orgueil. C'est du reste pour ça, voyez, que les spirituels disent « Attention, ne développez pas trop votre intelligence. » Ça sera l'orgueil. C'est vrai, mais il peut y avoir des raisons plus importantes à développer son intelligence. Mais je crois que ça a joué beaucoup pour faire que des quantités chrétiens, en insistant tellement sur le point de vue moral, n'ont pas voulu développer leur intelligence. Par une espèce de souci d'humilité. De fausse humilité, parce que c'est pas une véritable humilité, ça. La véritable humilité implique la recherche de la vérité. Et que plus je recherche la vérité sur moi et sur ceux qui sont proches de moi, plus je pourrais être véritablement humble. Mais ça a joué beaucoup, ça, dans notre christianisme, avec le XVIIe siècle, entre autres, l'aspect moralisant. Après, l'aspect moralisant du XVIIe siècle était très fort. Chez les gens bien, l'espèce de pharisaïsme du XVIIe siècle, qui fait que on a eu peur de développer son intelligence. Et parce qu'on a eu peur de développer son intelligence, on ne l'a pas développée. On a cru par là être humble. L'humilité, c'est dans le cœur. L'orgueil est aussi dans le cœur, et la matière de l'orgueil, c'est l'intelligence. Et la matière de l'humilité, c'est cet acte par lequel je reconnais que Dieu passe avant tout, et que tous ceux qui sont très proches de moi, Dieu peut les faire passer devant, humilier en face d'eux. Donc, il y a là un problème. Hein. Je souligne simplement, mais je crois très important, réfléchissez à ça. Est-ce que la vertu d'humilité n'est-elle pas la fleur particulière de l'éthique religieuse? Je crois. Je crois. L'éthique chrétienne, en reprenant l'affirmation de Jésus, je suis doux et humble de cœur, mettra ça très très en lumière, voyez, en mettant humilité et douceur. Mais c'est déjà vrai pour l'éthique religieuse. Alors, poussons. Quelle est la vertu? Alors, ceci transforme profondément les relations de charité fraternelle. Dans leur exercice. Alors il y a peut-être une autre note qui religieuse, mais en pleine lumière, par l'adoration et dans l'adoration. Je sais que mon ami est d'abord à Dieu par son âme spirituelle avant que d'être à moi. Il y a toujours dans l'ami quelque chose qui échappe à mon droit. Parce que son âme est de Dieu. Et donc il y a quelque chose qui exige d'avoir une attitude de pauvreté. Je n'ai pas le droit de dominer sur lui. Il y a en lui une autonomie radicale qui est justement développée grâce à l'adoration et par l'adoration. Et donc, il m'échappe. Il y aura toujours dans une amitié qui est sous la mouvance de la vertu de religion, de l'adoration et de la soif de contemplation, il y aura toujours ce caractère de pauvreté qui modifiera l'aspect naturel du droit de l'ami, de jus amicitiae. J'ai un droit sur mon ami parce qu'il est mon ami. Il s'est donné à moi, je me suis donné à lui, j'ai un droit. Au niveau de l'éthique religieuse, ce droit est relativisé fondamentalement par le fait que l'âme de mon ami étant créée par Dieu, étant capable d'adorer, m'échappe. On est d'abord à Dieu avant d'être aux hommes. On est d'abord à Dieu fondamentalement par l'adoration avant d'être relatif aux autres. Et ceci met tout de suite un caractère très particulier, très spécial. Vous voyez, ça touche l'humilité. Hein. Alors on pourrait se poser la question, quelle différence mettez-vous entre humilité et pauvreté? L'humilité est une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu. Elle est un état que je constate. Donc, il y a une question de connaissance plus radicale dans la pauvreté que dans l'humilité. L'humilité est plus affective. J'allais presque dire, vous voyez, on pourrait presque dire ça. Et ce serait peut-être éclairant à comprendre que l'adoration conduit à l'humilité. La contemplation conduit à la pauvreté. L'élément intellectuel de la contemplation, le regard vers Dieu, du Dieu créateur, du Dieu dont tout dépend et qui est le Père de mon âme, donnera le sens de la pauvreté et me fera comprendre mon état de pauvreté, de petite créature, totalement dépendante de Dieu, totalement dépendante de Dieu par rapport à mon âme et par rapport à l'âme de mon ami. Donc, on peut dire que c'est la contemplation, et dans la mesure où la contemplation religieuse augmente, que la pauvreté va s'emparer de mon âme par rapport à l'exercice de l'amour d'amitié. Et l'adoration permet l'humilité. Alors, les deux vont coopérer. L'humilité, l'aspect volontaire. de l'humilité. Je veux que l'autre passe devant moi. Et la pauvreté, la constatation d'un état de pauvreté, de celui qui n'a aucun droit au sens absolu sur l'autre. C'est une question de connaissance de l'autre dans sa dépendance à l'égard du Créateur. Fera que je regarderai l'autre dans sa dignité de créature totalement dépendante de Dieu. J'aurai un sens de la dignité de l'autre que, touchant et critiquant mon frère, l'autre, au fond, je critique Dieu. Parce que je ne vois pas assez combien il est en référence avec Dieu. Ce que je vois dans la contemplation. Et la pauvreté a quelque chose de plus radical que l'humilité. Et ça, c'est vrai. Ça a quelque chose de plus radical et de plus grand. De plus exigeant. Pas seulement laisser passer l'autre devant, mais reconnaître que l'autre a une dignité propre, que l'autre a quelque chose qui lui est, qui est sa marque particulière, parce qu'il est de Dieu, et qu'il est fait pour remonter jusqu'à Dieu, et que Dieu a sur lui un regard propre, personnel d'amour. Ce qui fait que je le respecte, et non seulement je le respecte, je l'aime, et j'ai vis-à-vis de lui une attitude de pauvre. Je n'ai aucun droit sur sa dignité propre, sur sa grandeur propre. Elle a quelque chose que je crois très unique. Dans la pauvreté. Et ça aussi, c'est très typique de l'éthique religieuse. Je crois que la pauvreté n'existe pas dans l'éthique fondamentalement humaine par rapport à l'amour d'amitié. L'autre vertu qui va apparaître, ce sera l'obéissance. On verra ça la fois prochaine.